Poussière et granit. Une coproduction d'Ecclesia, FM+, et Alliance+. Présentée par Christian Delors.
Bonjour. Dans l'émission d'aujourd'hui, il sera question de mission, il sera question d'engagement, d'articles des périodiques protestants Nuance, Le CEP ou Réforme. Il sera aussi question du Proche-Orient, d'un colloque sur la détresse du politique et enfin de changement climatique avec un écho de la COP22. L'équipe d'animation missionnaire de l'Église protestante unie de Nîmes vient de publier son dernier bulletin semestriel. Il rend compte du dernier week-end missionnaire avec les animations autour de la République centrafricaine et les actions de l'Église protestante du Christ-Roi, membre de la CEVA, communauté d'Église en mission. Les années précédentes, c'était les chrétiens d'Orient et l'Église de Madagascar qui étaient à l'honneur. Ce bulletin nous informe aussi du prochain week-end qui aura lieu les 23, 25 et 26 mars 2017. Vous pouvez vous procurer ce bulletin dans les divers lieux de culte de l'Église protestante unie ainsi qu'à la Maison du protestantisme. La semaine dernière, je faisais écho de la table ronde organisée à l'occasion de la visite à Nîmes de trois délégués des églises de la CEVA, communauté d'églises en mission, le 22 octobre dernier. Vous pourrez écouter sur notre site internet un enregistrement d'extrait de cette table ronde diffusée sur notre antenne le 7 novembre dans le cadre de notre émission « Dans nos communautés ». Parmi les rendez-vous, on peut rappeler que dans le cadre de la manifestation « Migrants saines », manifestation organisée par la CIMAD tout au long de la semaine du 14 au 19 novembre au cinéma Le Sémaphore à Nîmes, sera projeté le 19 novembre à 20h30 le film La Permanence. Pendant un an, Alice Diop a filmé des consultations de médecine destinées aux personnes en difficulté à l'hôpital Avicenne de Bobigny. D'une force à la mesure de sa rigueur, La Permanence, la projection sera suivie d'un débat avec la présence d'un psychiatre. Je voudrais signaler la parution du numéro 269 du mois de novembre du mensuel Nuance de l'Église protestante réformée évangélique. Son dossier porte sur le thème « Les anciens qui nous conduisent » en référence au texte de l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, versets 7 et 8. « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu ». Quant au mensuel Le CEP, il se fait écho des radios régionales protestantes FM+, à Montpellier, et Radio Alliance+, ici à Nîmes. Notre collaboratrice bénévole Sylviane Vichegros-Magnette y signe un article sur l'accueil des migrants, et en particulier au comité de soutien de la commune de Mialet, comité de soutien à une famille arménienne, comité auquel elle a donné la parole dans l'une de ses émissions que nous vous invitons à écouter en rediffusion sur notre site internet. Le mensuel Le CEP propose également, dans son numéro de novembre, le premier d'une série d'articles sur les lieux de mémoire du monde de Luther. Le premier lieu évoqué est le monument de Worms, érigé en 1868 dans le contexte de l'émergence de l'Empire allemand et celui du Kulturkampf, qui désigne le conflit entre la Prusse, puis l'Empire allemand et la papauté. Toujours dans la presse, je voudrais vous signaler et vous recommander le très intéressant portrait paru dans l'hebdomadaire Réforme du 27 octobre dernier de Martin Junge, secrétaire général de la Fédération luthérienne mondiale, qui a participé à la rencontre organisée à Lund, en Suède, à l'occasion du 500e anniversaire de la Réforme célébrée dans cette ville en présence du pape François le 31 octobre dernier. Pasteur et théologien chilien, Martin Junge a eu un parcours marqué par une expérience forte, la dictature chilienne sous laquelle il a grandi. Je sais ce que cela veut dire de mettre les droits humains de côté. C'est le début d'un cauchemar, rappelle Martin Junge, qui place au cœur de son mandat le sort des réfugiés dans le monde. Ici à Nîmes, le pasteur Philippe Verseille, directeur de l'association protestante d'assistance, connue sous le nom de APA, vient d'annoncer que la nouvelle installation des locaux est maintenant terminée, de sorte que les activités ont pu reprendre le 3 novembre dernier. Nous nous réjouissons de cet événement et nous aurons prochainement des échos plus détaillés de la nouvelle configuration de l'accueil et des activités de cette association. La presse évoque régulièrement le sort tragique des habitants de la grande ville d'Alep en Syrie. L'Action chrétienne en Orient suit évidemment la situation avec attention. Le comité exécutif de l'Action chrétienne en Orient, ACO Fellowship, s'est réuni à Strasbourg entre le 15 et le 19 octobre courant. Il a rencontré le consistoire supérieur de l'Église protestante, la faculté de théologie de Strasbourg. Il a eu des informations douloureuses sur la situation des églises protestantes en Syrie, en Iran et au Liban. En conclusion de la rencontre, des voix se sont élevées pour demander une déclaration sur Alep, aussi pour compléter et corriger l'information omniprésente dans les médias occidentaux. Ci-dessous, cette déclaration traduite par nos soins. Strasbourg, le 19 octobre. Le comité exécutif de ACO Fellowship tient à exprimer sa plus vive inquiétude face à la montée de la violence dans la ville syrienne d'Alep. Dans une réunion tenue du 15 au 19 octobre 2016 à Strasbourg, l'Action chrétienne en Orient prend en compte les dernières nouvelles venant des églises partenaires à Alep. Ces nouvelles arrivent à la conclusion que la situation humanitaire de la ville se détériore rapidement, non seulement dans les quartiers est tenus par les rebelles, mais aussi dans les secteurs contrôlés par le gouvernement où un grand nombre de personnes ont été tuées par les bombardements ces dernières semaines. Deux églises partenaires de ACO Fellowship, le Synode national évangélique de Syrie et du Liban, d'une part, et l'Union des églises évangéliques arméniennes du Proche-Orient, d'autre part, ont été sévèrement touchées par les combats. Pendant ces dernières semaines, une école et une église ont été touchées par des tirs de roquettes. Une église qui vient juste d'être construite est à présent sur la ligne de front. Les bâtiments du 19e siècle appartenant à cette communauté ont été détruits par des attentats ciblés dès le début de la guerre. L'Action chrétienne en Orient demande aux églises avec lesquelles elle est en relation de prier pour les habitants de la ville d'Alep, pour les chrétiens qui sont restés sur place et pour tous ceux qui œuvrent pour secourir les victimes et le maintien de la paix. Entre-temps, l'Action chrétienne en Orient continue d'apporter un soutien au travail pastoral et humanitaire de ses églises partenaires à Alep, en Syrie et au Liban. L'Action chrétienne en Orient exprime aussi sa conviction que les interventions violentes menées de l'extérieur ne peuvent contribuer à la réalisation de la paix en Syrie. Elle appelle tous les politiciens bien intentionnés à user de leur influence pour que la violence stoppe immédiatement, pour empêcher les livraisons d'armes aux parties en guerre et pour aider les Syriens à atteindre une solution pacifique. L'Action chrétienne en Orient est un groupe de 6 partenaires protestants, 3 du Moyen-Orient, Iran, Syrie et Liban, et 3 d'Europe, Suisse, France et Pays-Bas. Il favorise un travail spirituel, diaconal et de développement principalement au Moyen-Orient. Regard protestant, le portail des médias protestants. C'est un portail pour découvrir toute l'actualité des médias protestants en France. Conçu par la Fondation Pasteur Eugène Bercier, soutenue par la Fédération protestante en partenariat avec de nombreux médias protestants, le portail Regard protestant veut faire découvrir la richesse et la diversité des médias protestants francophones. Parmi les journaux, on peut citer l'Alliance Presse, Réforme, pour les radios, le service radio de la Fédération protestante, Fréquence protestante, la télévision, les blogs et producteurs de contenus protestants français et suisses invitent à dialoguer autour des sujets d'actualité ou des interrogations spirituelles. En partenariat avec l'Église protestante unie de France et l'hebdomadaire Réforme, Regards protestants organise à la fin de cette semaine, le 13 novembre, dans les locaux de l'Institut protestant de théologie, 83 boulevard Arago à Paris, un forum sur le thème de la détresse du politique. Pour tout renseignement et inscription, on peut écrire au Le Forum Regards Protestants, au pluriel, .fr. Le Forum Regards Protestants, .fr. Pour ce colloque, il y aura un certain nombre de tables rondes qui commenceront au début de l'après-midi. Tout d'abord, une table ronde avec Alain Duhamel, Pierre Jox et Nathalie Lénard. Ensuite, une deuxième table ronde sur la crise des politiques migratoires avec Geneviève Jacques, Geneviève Domenac de la CIMADE et Olivier Abel. Ensuite, la question de la terreur et la montée des populismes, table ronde avec Françoise Dumont, Christine Lazerge et Anne-Sophie Dantan. Ensuite, une table ronde avec Sylvie Tissot, Yann Verling et Stéphane Lavignotte sur le thème de la vie démocratique en question. Les articulations du théologico-politique avec Louis Schweitzer, François Vouga et Mathieu Gervais. Encore une table ronde à 17h avec Nicolas Caden, Michael Fessel, François Claveroli et Eric Eschliemann. Et cet après-midi se terminera à 18h par une conférence de presse, présentation des éléments de réflexion sur la fiabilité de la parole publique par Séverine Daudet et Olivier Abel. Le 4 novembre, l'accord de Paris sur le climat est entré en vigueur. Martin Kopp nous explique maintenant les enjeux de la COP 22 qui se réunit au Maroc. C'est un succès diplomatique, ce n'est pas encore un succès climatique car les annonces d'objectifs de réduction d'émissions mènent à un réchauffement moyen global de 3 degrés ou plus. La COP 22 doit être la COP de l'action. Martin Kopp anime le groupe de travail de la Fédération protestante de France sur les changements climatiques. Depuis septembre 2014, en vue de la COP 21, la Fédération protestante de France est investie dans la question des changements climatiques et plus largement dans la question environnementale. L'Assemblée générale de 2016 a souhaité poursuivre ses actions autour de cette thématique. Elle s'est dotée d'une commission d'experts, le groupe Climat de la Fédération protestante de France, qui travaille à cette question et orientée à partir de la déclaration de l'Assemblée générale 2016. Voici donc une interview de Martin Kopp.
Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous depuis Fès au Maroc, où se tient aujourd'hui la seconde édition du Sommet des consciences pour le climat, quelques jours avant la tenue dans ce même pays de la COP22 à partir de lundi. C'est l'occasion pour nous de faire un point sur quels sont les enjeux de la COP22, où est-ce que nous en sommes dans les négociations climat. Vous savez que demain, 4 novembre, l'accord de Paris entrera en vigueur grâce au fait que plus de 55 pays, représentant plus de 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ont ratifié l'accord de Paris. Parmi eux, évidemment, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, l'Inde et d'autres grands émetteurs. C'est une très bonne nouvelle. Les négociations sur la ratification sont allées beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Les négociateurs eux-mêmes ont été un peu surpris et pris de court. On ne pensait pas que l'accord de Paris entrerait effectivement en vigueur moins d'un an. C'est un record. Aucun traité de l'ONU n'est entré en vigueur aussi rapidement après son adoption. C'est une bonne nouvelle, mais ça va vite, ce qui signifie qu'il y a encore des détails à régler, des décisions à prendre et à négocier. En l'occurrence, si les grands principes, les grandes règles de l'accord de Paris sont dans l'accord en tant que tel, dans le texte qui a été adopté dans la capitale française, il reste un certain nombre de détails et de points techniques à discuter qui ont leur importance et qui permettent d'avoir un règlement destiné à une mise en œuvre effective et efficace de l'accord de Paris. Parmi l'ensemble des questions qui restent à discuter, je voudrais juste relever deux points saillants qui sont celui de l'ambition et celui de la finance. L'ambition, car si le texte de l'accord de Paris pose un objectif élevé, rester nettement sous les 2 degrés Celsius et poursuivre les efforts vers les 1,5, eh bien nous savons que les contributions nationales des États à ce jour ne sont pas assez ambitieuses pour atteindre ces objectifs. En fait, selon les études indépendantes et même selon une étude de l'ONU, l'ensemble des contributions nationales nous mène à 3 degrés de réchauffement ou plus. Il faut donc augmenter l'ambition des contributions nationales, ce de façon volontaire, probablement avant 2018, qui sera le premier point d'étape où l'ensemble des pays verra où l'on se situe vis-à-vis des objectifs de l'accord. Quant à la finance, depuis 2009, les pays développés promettent 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 aux pays en voie de développement. Le chiffre se trouve dans le texte de décision de Paris. Le principe qu'il faille aider financièrement les pays en voie de développement se trouve dans l'accord même de Paris. Mais on attend depuis des années, et on n'a pas eu à Paris, une feuille de route où les pays développés précisent quand et comment ils vont arriver à 100 milliards de dollars par an de financement. C'est important parce que beaucoup des contributions nationales des pays en voie de développement sont conditionnées à l'obtention de cette aide financière, mais aussi d'aide technologique, de transfert de compétences et autres. Donc on attend de voir à la COP22, entre un certain nombre d'autres points, notamment comment est-ce qu'on va augmenter l'ambition des contributions nationales, et puis qu'est-ce qu'il en est de la finance. Évidemment, il y a plusieurs dizaines de règles à discuter, ce sont deux points principaux que je choisis de présenter. Globalement, le Maroc, qui est le président donc de la COP22, a décidé de mettre trois thèmes au cœur de cette COP, en sus de l'ensemble des questions à discuter, qui sont le triple A, l'adaptation, l'agriculture et l'Afrique. L'adaptation parce que si l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, est effectivement un élément crucial, l'adaptation, c'est-à-dire le fait qu'un pays s'adapte aux conséquences d'ores et déjà des changements climatiques et aux conséquences à venir, est fondamentale pour les pays vulnérables. Et il est important que l'équilibre entre ces deux éléments, atténuation et adaptation, soit respecté. C'est un des points positifs de l'accord de Paris, de mettre sur le même plan hiérarchique ces deux enjeux. Mais il risque d'oublier l'adaptation en cours de route. Donc le Maroc insiste sur cela, en particulier dans le domaine agricole, qui est important parce qu'il y a énormément de petits paysans dans les pays les plus vulnérables. Quant à l'Afrique, continent qui accueille la COP cette année, fait partie des continents les plus vulnérables, et le Maroc en profite pour en faire une question centrale. Si l'on devait résumer les choses en une phrase, je dirais, et d'ailleurs le Maroc le dit dans sa communication en tant que tel, que la COP22 doit être la COP de l'action, après la COP21 qui a été la COP de la décision, c'est-à-dire la mise en œuvre, et il est temps. On peut se réjouir de l'avancée des négociations, de l'adoption de l'accord de Paris, c'est vrai, c'est important, mais ça fait 22 ans qu'on négocie. Il est largement temps maintenant d'augmenter, d'intensifier, d'approfondir l'action des États, faute de quoi nous n'atteindrons pas nos objectifs. Mais globalement, le discours est positif, l'action pour le climat est une chance à de grands, enfin, sur plein d'enjeux. On sait notamment, vous l'avez peut-être entendu dans la presse cette semaine, qu'au moins 300 millions d'enfants dans le monde vivent dans des conditions atmosphériques polluées qui mettent en danger leur santé, voire qui font décéder bien plus tôt des dizaines de milliers d'enfants autour du monde. Or, la pollution atmosphérique, c'est lié à la question du climat, donc c'est un enjeu de santé, c'est un enjeu de justice, c'est un enjeu de paix. Souhaitons donc que la COP22 soit cette COP de l'action, pas la COP de l'action en tant que telle, mais une COP qui permette de l'approfondir et de pousser pour les années à venir.
Sur ces mots, ou sur cette interview, je vais vous laisser, non sans vous inviter à réagir à nos émissions et à nous dire ce que vous souhaiteriez entendre. N'oubliez pas que nous disposons d'une page Facebook qui n'attend que vos remarques. Au revoir.